vous allez entendre deux documents sonores. Pour chaque document, vous aurez 2 minutes pour lire les questions, une première écoute, puis 1 minute et demie de pause pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 2 minutes de pause pour compléter vos réponses.
Épreuve numéro 1.
C'est Mon Époque tous les mercredis sur France Info à 6h23. Bonjour Sophie Ovigne.
Bonjour Fabienne.
Et Sophie, ce matin, on s'intéresse à un petit objet de notre quotidien, quasiment invisible, souvent bien caché. D'ailleurs, on en cherche tout le temps, on n'en trouve jamais, les piles. Parce que ce mercredi, donc 9 septembre, est la première journée européenne du recyclage des piles. Alors, il y a de quoi faire, parce que le chiffre, il est vertigineux. Il se vend en France chaque année 1,2 milliard de piles et de batteries portables. C'est hallucinant et on est loin, évidemment, de tout recycler. Hein.
Et c'est pire que ça, Fabienne, parce qu'on ne sait même plus ce qu'on a chez soi. On pourrait d'ailleurs faire le test si je vous laissais le temps de recenser mentalement vos appareils. Pareil, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire les questions et les réponses.
Très bien, je vous remercie.
Vous me diriez que vous avez environ 25 piles à la maison. Raté, selon une étude, nous avons 3 fois plus de piles que nous ne le pensons dans nos tiroirs, aux alentours de 75. Elles sont endormies dans nos appareils ou carrément oubliées dans les jouets des enfants.
Mais on recycle déjà, d'ailleurs, il y a des appareils ici à France Info pour mettre des piles à l'intérieur.
Oui, bien sûr, mais pas suffisamment. Sur 100 piles usagées, eh bien, il y en a une trentaine qui sont jetées aux ordures ou qui finissent dans la nature. Très mauvais réflexe, évidemment, à bannir. Et puis, on sait bien recycler en gros la moitié des composants d'une pile. Le reste, c'est plus compliqué. Alors, il est vrai, maintenant, on va pouvoir réutiliser la pile complète dans les fonderies pour en faire par exemple des pièces de camion.
Parce qu'il faut le rappeler, une pile c'est extrêmement polluant.
Oui, certes, on a fait des progrès depuis 20 ans. Par exemple, il n'y a plus de mercure dans les piles bâtons, c'était très toxique. Mais certaines batteries rechargeables peuvent encore contenir des métaux lourds. Ça se recycle parfaitement. On transforme le plomb, le cuivre, le cobalt en batteries neuves. Les piles classiques renferment également du zinc et là on en fait des toitures et des gouttières. Et puis les alliages de nickel et de fer, eux, sont transformés en acier inoxydable. Et ils deviennent des carrosseries, voire des couverts. Au total, 7000 tonnes de métaux repartent ainsi chaque année dans l'industrie, c'est-à-dire le poids d'une tour Eiffel tous les ans.
Et alors, si on veut participer à ce recyclage, la construction de cette nouvelle tour Eiffel, donc qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien d'abord, faire la chasse aux petites batteries usagées, aux piles abandonnées dans nos appareils ou nos gadgets inutilisés. Et puis évidemment, il faut s'en débarrasser au bon endroit. Et on a toutes les chances de trouver un point de collecte. Il y en a 30 000 en France, là où on fait nos courses, chez les distributeurs. Mais les collectivités locales sont également de la partie. Elles vont d'ailleurs mettre à disposition en plus, d'ici la fin de l'année, 1000 fûts de récupération, beaucoup plus sûrs, parce que le grand ennemi, c'est la pluie qui emporte avec elle la pollution. Et puis l'autre danger, eh bien, c'est nous, utilisateurs de piles, étourdis, voire inciviques. Alors Corépile, l'organisme qui recycle, mise aujourd'hui sur les enfants, eux aussi grands consommateurs de piles dans les jeux, dans les jouets, mais on compte sur eux pour remettre dans le circuit 100% des piles usagées.
Voilà, ma réflexion pour vous. Tiens, au cours de cette journée, avec vos 75 piles, Sophie Ovine, merci beaucoup. C'est mon époque sur France Info tous les mercredis. C'est mon époque tous les mercredis sur France Info à 6h23. Bonjour Sophie Ovine.
Bonjour Fabienne.
Et Sophie, ce matin, on s'intéresse à un petit objet de notre quotidien, quasiment invisible, souvent bien caché. D'ailleurs, on en cherche tout le temps, on n'en trouve jamais. Les piles, parce que ce mercredi, donc 9 septembre, est la première journée européenne du recyclage des piles. Alors, il y a de quoi faire, parce que le chiffre, il est vertigineux. Il se vend en France chaque année 1,2 milliard de piles et de batteries portables. C'est hallucinant et on est loin, évidemment, de tout recycler. Hein.
Et c'est pire que ça, Fabienne, parce qu'on ne sait même plus ce qu'on a chez soi. On pourrait d'ailleurs faire le test si je vous laissais le temps de recenser mentalement vos appareils. Pareil, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire les questions et les réponses.
Très bien, je vous remercie.
Vous me diriez que vous avez environ 25 piles à la maison. Raté, selon une étude, nous avons 3 fois plus de piles que nous ne le pensons dans nos tiroirs, aux alentours de 75. Elles sont endormies dans nos appareils ou carrément oubliées dans les jouets des enfants.
Mais on recycle déjà, d'ailleurs, il y a des appareils ici à France Info pour mettre des piles à l'intérieur.
Oui, bien sûr, mais pas suffisamment. Sur 100 piles usagées, eh bien, il y en a une trentaine qui sont jetées aux ordures ou qui finissent dans la nature. Très mauvais réflexe, évidemment, à bannir. Et puis, on sait bien recycler, en gros, la moitié des composants d'une pile. Le reste, c'est plus compliqué. Alors, il est vrai, maintenant, on va pouvoir réutiliser la pile complète dans les fonderies pour en faire par exemple des pièces de camion.
Parce qu'il faut le rappeler, une pile c'est extrêmement polluant.
Oui, certes, on a fait des progrès depuis 20 ans. Par exemple, il n'y a plus de mercure dans les piles bâtons, c'était très toxique. Mais certaines batteries rechargeables peuvent encore contenir des métaux lourds. Ça se recycle parfaitement. On transforme le plomb, le cuivre, le cobalt en batteries neuves. Les piles classiques renferment également du zinc et là on en fait des toitures et des gouttières. Et puis les alliages de nickel et de fer, eux, sont transformés en acier inoxydable. Et ils deviennent des carrosseries, voire des couverts. Au total, 7000 tonnes de métaux repartent ainsi chaque année dans l'industrie, c'est-à-dire le poids d'une tour Eiffel tous les ans.
Et alors, si on veut participer à ce recyclage, la construction de cette nouvelle tour Eiffel, donc qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien d'abord, faire la chasse aux petites batteries usagées, aux piles abandonnées dans nos appareils ou nos gadgets inutilisés. Et puis évidemment, il faut s'en débarrasser au bon endroit. Et on a toutes les chances de trouver un point de collecte. Il y en a 30 000 en France, là où on fait nos courses, chez les distributeurs. Mais les collectivités locales sont également de la partie. Elles vont d'ailleurs mettre à disposition en plus, d'ici la fin de l'année, 1000 fûts de récupération, beaucoup plus sûrs, parce que le grand ennemi, c'est la pluie qui emporte avec elle la pollution. Et puis l'autre danger, eh bien, c'est nous, utilisateurs de piles, étourdis, voire inciviques. Alors Corépile, l'organisme qui recycle, mise aujourd'hui sur les enfants, eux aussi grands consommateurs de piles dans les jeux, dans les jouets, mais on compte sur eux pour remettre dans le circuit 100% des piles usagées.
Voilà, ma réflexion pour vous. Tiens, au cours de cette journée, avec vos 75 piles, Sophie Ovine, merci beaucoup. C'est mon époque sur France Info tous les mercredis.
Épreuve numéro 2.
Vous avez peut-être connu cela, une vie à 200 à l'heure, pas le temps de se poser, une soirée entre amis et la phrase qui surgit, et si on plaquait tout pour monter une chambre d'hôte ou un gîte? On appelle même cela le syndrome de la chambre d'hôte. Angélique s'est lancée et pour elle, la nouvelle vie correspond à ce qu'elle attendait.
Il y a quand même pas mal de clients où c'était presque comme des amis, et d'ailleurs ils sont venus prendre l'apéro à la maison. C'est pas des clients, ce sont des hôtes. C'est pas un business, moi c'est un petit plus. C'est pas un job à plein temps et moi c'est ce qui me permet de pouvoir avoir un petit plus parce que voilà, j'ai 4 enfants et que j'ai décidé d'être complètement disponible pour l'exploitation et mes enfants.
Alors voilà pour la part de rêve, monter une chambre d'hôte ou un gîte. Concrètement, comment réussir cette étape d'une vie? En studio avec nous pour Un Jour en France, Anne-Catherine Péchineau. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de Gîtes de France. Invitée également Caroline Kibert. Bonjour madame.
Bonjour.
Rédactrice en chef de Accueillir Magazine, revue consacrée aux propriétaires et loueurs de chambres d'hôtes, maisons d'hôtes et meublés de tourisme. Je voudrais commencer avec un mail de Gaëlle. Long mail, elle nous dit que ça fait 7 ans qu'elle a ouvert des gîtes et chambres d'hôtes près de Saumur. Elle adore ce qu'elle fait, mais elle pose une série de conditions. Petit 1, que ce soit un choix de vie assumé par toute la famille. On travaille 7 jours sur 7. Faut pas oublier la famille, le couple, les amis. Qu'il y ait un minimum de centres d'intérêt dans les environs pour que les visiteurs aient des raisons de venir. Il faut aimer être à la maison. On peut parfois étouffer, dit-elle, au milieu d'un grand jardin à la campagne. Il faut faire un plan de financement, ne pas voir trop grand, ne pas idéaliser le métier, ne pas oublier qu'en changeant de vie, on emmène ses problèmes avec soi. Et elle conclut, je suis un peu lassée de cet effet de mode qui consiste à voir cette activité comme un havre de paix. Que retenez-vous l'une et l'autre de toutes ces conditions, Anne-Catherine Péchineau?
Je pense que c'est un métier qu'on ne peut faire que si on aime les gens. Donc ce n'est pas un choix de vie où on se dit effectivement ça va être un Eldorado, je vais ouvrir un gîte, une chambre d'hôte et de façon instantanée tout va se passer de manière magnifique. On le voit bien d'ailleurs dans le reportage qu'on a entendu, le choix de la personne qui a rénové ce gîte, c'était un choix de conserver un patrimoine et de réhabiliter. Donc il faut aimer les gens, il faut être un passeur de territoire. Toutes les régions en France ont un attrait. Encore faut-il pouvoir expliquer à ses hôtes ce qu'il y a à faire à proximité.
Autour du gîte ou de la chambre d'hôte. Concrètement, il faut, Caroline Kibert, un investissement de départ. Comment on lance l'affaire? Est-ce que voilà, c'est un investissement important en termes d'argent, en termes de travaux?
En fait, il y a un peu deux profils. Il y a ceux qui ont la maison. Alors soit les enfants sont partis, ouais. Soit des D'ailleurs,
ils ont eux-mêmes une propriété historique et les chambres d'hôtes ont permis de sauver beaucoup de patrimoine. Soit, et c'est une petite partie, on part effectivement, on achète une bâtisse pour y faire des chambres d'hôtes, voire on rachète une maison en activité. Donc à partir de là, il faut effectivement un investissement parce que l'activité ne permettra pas de dégager le remboursement à 100% du bâtiment, plus d'en vivre à deux, ça c'est clair.
Il y a déjà une question qui revient fréquemment, souvent c'est une affaire qui se monte en couple, il faut garder une activité à côté.
Nous le recommandons beaucoup, en fait il y a sur à peu près 25 000 propriétaires en France, hein, parce que ça n'est que ça, ça n'est que 2% de l'hébergement marchand en France, même si c'est 100% de l'espace médiatique pratiquement, et on estime qu'il y a 4 000 propriétaires qui en ont fait une activité à deux, donc un vrai projet professionnel, pas dans le sens des autres seraient des amateurs, mais dans le sens on veut en vivre. En général, ils ont chambre d'hôtes, mais ils ont aussi salle de réception, gîte donc, ou centre équestre, donc ils ont un peu plus.
Vous avez peut-être connu cela, une vie à 200 à l'heure, pas le temps de se poser, une soirée entre amis et la phrase qui surgit, et si on plaquait tout pour monter une chambre d'hôte ou un gîte? On appelle même cela le syndrome de la chambre d'hôte. Angélique s'est lancée et pour elle, la nouvelle vie correspond à ce qu'elle attendait.
Il y a quand même des pas mal de clients où c'était presque comme des amis, et d'ailleurs ils sont venus prendre l'apéro à la maison. C'est pas des clients, ce sont des hôtes. C'est pas un business, moi c'est un petit plus. C'est pas un job à plein temps et moi c'est ce qui me permet de pouvoir avoir un petit plus parce que voilà, j'ai 4 enfants et que j'ai décidé d'être complètement disponible pour l'exploitation et mes enfants.
Alors voilà pour la part de rêve, monter une chambre d'hôte ou un gîte. Concrètement, comment réussir cette étape d'une vie? En studio avec nous pour Un Jour en France, Anne-Catherine Péchineau. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de Gîtes de France. Invitée également Caroline Kibert. Bonjour madame.
Bonjour.
Rédactrice en chef de Accueillir Magazine, revue consacrée aux propriétaires et loueurs de chambres d'hôtes, maisons d'hôtes et meublés de tourisme. Je voudrais commencer avec un mail de Gaëlle. Long mail. Elle nous dit que ça fait 7 ans qu'elle a ouvert des gîtes et chambres d'hôtes près de Saumur. Elle adore ce qu'elle fait, mais elle pose une série de conditions. Petit 1, que ce soit un choix de vie assumé par toute la famille. On travaille 7 jours sur 7. Faut pas oublier la famille, le couple, les amis. Qu'il y ait un minimum de centres d'intérêt dans les environs pour que les visiteurs aient des raisons de venir. Il faut aimer être à la maison. On peut parfois étouffer, dit-elle, au milieu d'un grand jardin à la campagne. Il faut faire un plan de financement, ne pas voir trop grand, ne pas idéaliser le métier, ne pas oublier qu'en changeant de vie, on emmène ses problèmes avec soi. Et elle conclut, je suis un peu lassée de cet effet de mode qui consiste à voir cette activité comme un havre de paix. Que retenez-vous l'une et l'autre de toutes ces conditions, Anne-Catherine Péchineau?
Je pense que c'est un métier qu'on ne peut faire que si on aime les gens. Donc ce n'est pas un choix de vie où on se dit effectivement ça va être un Eldorado, je vais ouvrir un gîte, une chambre d'hôte et de façon instantanée tout va se passer de manière magnifique. On le voit bien d'ailleurs dans le reportage qu'on a entendu, le choix de la personne qui a rénové ce gîte, c'était un choix de conserver un patrimoine et de réhabiliter. Donc il faut aimer les gens, il faut être un passeur de territoire. Toutes les régions en France ont un attrait et encore faut-il pouvoir expliquer à ses hôtes ce qu'il y y a à faire à proximité.
Autour du gîte ou de la chambre d'hôte. Concrètement, il faut, Caroline Kibert, un investissement de départ. Comment on lance l'affaire? Est-ce que voilà, c'est un investissement important en termes d'argent, en termes de travaux?
En fait, il y a un peu deux profils. Il y a ceux qui ont la maison. Alors, soit les enfants sont partis, ouais. soit d'ailleurs, ils ont eux-mêmes une propriété historique et les chambres d'hôtes ont permis de sauver beaucoup de patrimoine. Soit, et c'est une petite partie, on part, effectivement, on achète une bâtisse pour y faire des chambres d'hôtes, voire on rachète une maison en activité. Donc, à partir de là, il faut effectivement un investissement parce que l'activité ne permettra pas de dégager le remboursement à 100% du bâtiment, plus d'en vivre à deux, ça c'est clair.
Il y a déjà une question qui revient fréquemment. Souvent, c'est une affaire qui se monte en couple. Il faut garder une activité à côté.
Nous le recommandons beaucoup. En fait, il y a sur à peu près 25 000 propriétaires en France, hein, parce que ça n'est que ça, ça n'est que 2% de l'hébergement marchand en France, même si c'est 100% de l'espace médiatique pratiquement. Et on estime qu'il y a 4 000 propriétaires qui en ont fait une activité à deux, donc un vrai projet professionnel, pas dans le sens des autres seraient des amateurs, mais dans le sens on veut en vivre. En général, ils ont chambre d'hôte, mais ils ont aussi salle de réception, gîte, donc ou centre équestre, donc ils ont un peu plus.